Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si vous n'étiez pas là ou si vous voulez écouter ce message, il est en ligne sur le site de l'Église, donc vous pourrez y aller. Vous tapez église-la-bonne-nouvelle.fr et vous pourrez réécouter le message. C'était vraiment un encouragement. Je ne vais pas refaire la prédication de Jean-Luc, rassurez-vous, mais il parlait d'une rencontre personnelle qu'on fait avec Dieu et cette rencontre change les vies. Nous sommes, dès ce moment-là, mis à part pour lui et nous entrons dans un processus qui nous restaure, qui nous transforme et qui nous fait passer d'une ancienne maison, hein, qui est notre ancienne vie, dans un temple, le temple de Dieu, la demeure que Dieu habite, la demeure où Dieu veut venir habiter. Et il évoquait les combats qu'il peut y avoir, notamment avec notre ancienne nature, hein, qui essaye de nous tirer en arrière. Vous vous souvenez de ces bretelles élastiques qui essayent de nous ramener en arrière. Et c'est vrai que c'est un combat qui peut être intérieur par rapport à notre ancienne vie, mais qui peut être aussi extérieur par rapport à des attaques extérieures. Et ce matin, je voudrais poursuivre cette notion qui me paraît importante. Vous êtes le temple de Dieu. Alors, rassurez-vous, si vous êtes là pour la première fois ou une des premières fois, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais cette parole ce matin est aussi et peut-être encore plus pour vous. Est-ce que certains parmi vous ont déjà eu affaire à une construction de leur maison, d'un appartement, et ont eu affaire à un architecte ? Il y en a ? Alors, il n'y a personne. Un maître d'œuvre. Alors, c'est vrai qu'effectivement, l'architecte est souvent le maître d'œuvre. L'architecte, il a un rôle, c'est de faire les plans. Ce n'est pas lui qui exécute. L'architecte, il fait les plans. Et très souvent, dans ses fonctions, il y a une double casquette, comme on dit, c'est qu'il est maître d'œuvre, c'est-à-dire qu'il suit l'évolution de la construction pour s'assurer que c'est bien conforme au plan qu'il a fait. Et généralement, plus la bâtisse, plus la construction est grande et a de la valeur, et plus le rôle de l'architecte, bien évidemment, est important, voire indispensable. Et souvent, on se rend compte que les gens qui ont voulu faire par eux-mêmes, quand ils ont fini la construction, ils se disent « si c'est à refaire, je ne m'embêterai pas, je prendrai un architecte, je prendrai un maître d'œuvre pour me décharger sur lui ». Je ne sais pas quel architecte vous avez choisi pour la construction de votre temple. Vous êtes le temple de Dieu. Qui a construit les plans du temple que vous êtes ? Qui en est le maître d'œuvre ? Et ce matin, je voudrais aller dans un parallèle entre l'histoire du temple de Jérusalem et puis la vie, puisque l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, vous êtes le temple, vous êtes vous-même un temple où Dieu veut venir habiter. Donc on va essayer, au travers quelques passages de la Bible, de voir un petit peu cette notion de temple, à la fois qui était un bâtiment qui avait été construit à Jérusalem, et puis notre vie. On fera une première lecture dans 1 Roi, au chapitre 5, verset 5. Alors, vous pouvez chercher dans votre Bible, sinon vous allez les avoir à l'écran. Il va y avoir ce matin encore un certain nombre de passages de la Bible, mais ça me paraît important qu'on puisse se baser sur la parole. Et voici ce que dit Salomon dans ce verset. « Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, « Ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. » Et puis un peu plus loin, au chapitre 6, verset 2, il nous est dit « La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel. » Donc c'était une maison, une construction qui s'appelait, on retrouve dans la Bible, soit l'appellation le temple, soit la maison de l'Éternel, parce que c'était un bâtiment qui avait été construit pour accueillir la présence de Dieu. Et le temple, bien évidemment, symbolisait cette présence au milieu du peuple d'Israël. Et il montrait que le Seigneur désirait vivre parmi les siens, parmi son peuple. Non pas être un Dieu lointain dans le ciel, mais un Dieu présent parmi eux. Et dès ce moment-là, je fais le parallèle avec la création de l'homme. Adam, et la Bible nous dit dans Genèse au chapitre 1er, verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu ». Et à ce moment-là, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour être en communion permanente avec lui. C'était le temple, la première construction que Dieu faisait. Et puis dans la construction du temple de Salomon, il y a eu un moment important qui a été la dédicace, parce que ça a mis un certain temps avec, vous pourrez relire si vous le souhaitez, dans le chapitre 3 de mémoire de Un roi. Merde, j'ai un trou de mémoire. C'est quelque chose qui était extrêmement minutieux. Beaucoup de précision, beaucoup d'intervenants. Mais ça restait, quand il était terminé, ça restait une maison, un bâtiment. Il manquait une chose, c'était la présence de l'Éternel. Et dans 2 Chroniques, au chapitre 7, versets 1 et 2, une fois que le temple a été terminé, il y a eu cette dédicace et il nous est dit « Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. » Ça devenait réellement, à ce moment-là, la maison où Dieu habitait. Et quand Dieu a créé l'homme, quand il a créé Adam, il y a eu ce que j'appellerais une dédicace, moi. L'Éternel, dans Genèse chapitre 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » Voilà, c'était une masse informe. C'était une habitation, un temple où il n'y avait pas encore la vie, il n'y avait pas la présence de Dieu. Et Dieu, l'Éternel, souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et comme lors de la dédicace du temple, la gloire de l'Éternel remplit la maison, le souffle de Dieu habitait dans Adam. Et l'homme, Adam, avait été créé pour que Dieu habite en lui. Alors malheureusement, les choses se sont passées différemment. Parce qu'on le voit dans la parole, le peuple s'est éloigné de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et avec le péché qui est entré dans le monde. Et il nous est dit que Sédécias, qui était roi, le roi qui régnait sur Israël, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il raidit son cou et endurcit son cœur, au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations, et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. » N'est-ce pas là la définition synthétique du péché qui est entré dans le monde? Et dans les différents péchés, Jérémie, le prophète, vivait à ce moment-là parmi le peuple d'Israël. Et Dieu l'avait choisi pour avertir le roi, qui n'a pas voulu entendre. Et quand on lit dans Jérémie un certain nombre de passages, chapitre 5, versets 7 et 8, il est dit ceci, « Tes enfants m'ont abandonné et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée, semblables à des chevaux bien nourris qui courent çà et là. Ils hennissent chacun après la femme de son prochain. » Et puis un peu plus loin, au chapitre 6, verset 7, Jérémie dit ceci en parlant de Jérusalem, donc cette ville où régnait le roi Sédécias. Il n'y a qu'oppression au milieu d'elle. Comme un puits fait jaillir ses eaux, ainsi elle fait jaillir sa méchanceté. Il n'est bruit en son sein que de violence et de ruine. Et puis au verset 13, toujours du même chapitre 6, « Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. » Quelle ambiance, hein ? Depuis le moment où Salomon a construit le temple, où la gloire de l'Éternel était là, où le peuple était béni, obéissait, et puis cette chute, cette décadence, cet éloignement de Dieu, ambiance de mensonge, de cupidité, de tromperie, d'immoralité, d'injustice, de violence. Et ça m'a fait penser à ce passage de Paul aux Corinthiens, au premier chapitre des Corinthiens, et au chapitre 6, verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. » On a l'impression de revoir la liste que Jérémie faisait à l'époque de cet éloignement du peuple à Jérusalem. « Ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Alors tous, parmi nous, n'étaient peut-être pas de ces catégories, Mais la Bible dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Depuis que le péché est entré dans l'humanité, alors l'homme, la femme, est pécheur et pécheresse. Et le péché, dans nos vies pratiquées, a des conséquences dramatiques. Et c'est ce qu'on va voir un peu plus loin dans cette ville de Jérusalem et ce qui est arrivé au temple, qui était le reflet de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, qui, bien évidemment, s'est retiré parce qu'il ne pouvait pas supporter de vivre dans cette immoralité. Et le péché, une des premières conséquences, c'est que Dieu se retire de nos vies. C'est une porte que nous ouvrons à l'ennemi, qui veut notre perte, bien évidemment. Et puis, c'est une destruction. Le péché fait des ravages, même si le malin veut nous susurrer à l'oreille que c'est du plaisir, que vas-y, éclate-toi, fais-toi plaisir, tant que tu es sur terre, de toute façon, c'est pas quand tu seras vieux, c'est pas quand tu seras mort que tu pourras en profiter, vas-y, non. C'est la destruction des vies. C'est un pillage des bonnes choses que Dieu avait déposées en nous. Et le péché nous emmène en exil, loin de la présence de Dieu. Et on va lire là encore un passage qui illustre ce qui s'est passé à ce moment-là pour le peuple d'Israël, dans 2 Chroniques, au chapitre 36. Versets 15 à 21. « L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir. » De bonheur, il n'attend pas la dernière minute. Il a envoyé des prophètes, il a envoyé entre autres Jérémie. Quand il a vu que le peuple commençait à s'éloigner, alors le Seigneur n'a pas attendu pour envoyer des hommes de Dieu pour avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. C'est terrible, Dieu avait tout essayé. Le peuple avait un cœur tellement endurci qu'il n'y avait plus de remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée les jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Dans Deux Rois, il est fait mention également de ce récit. Il nous est dit que les fils du roi Sédécias qui régnait furent égorgés. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, le temple qui avait été construit. Ils démolirent les murailles de Jérusalem. Ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Jusqu'à ce que le pays jouît de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Là, c'est le ravage qu'a produit le péché. L'ennemi tue, l'ennemi égorge, l'ennemi dérobe tous les ustensiles et tous les trésors de la maison de Dieu, du temple, sont dérobés. C'est ce qui faisait la richesse, c'est ce qui faisait l'utilité du temple. Les ustensiles n'étaient pas là que pour décorer, ils avaient une utilité dans le temple. Et puis le temple est incendié, la muraille est détruite et ça m'a fait penser à ce passage, ce verset de l'Évangile de Jean où Jésus lui-même dit ceci au chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est ce qui s'est passé à l'époque. Dérober, égorger, détruire. Ça, ce sont les plans du malin, de Satan dans les vies. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Alors le peuple d'Israël est amené en exil, il est assujetti au roi Nebuchadnezzar, et loin de Dieu, c'est d'ailleurs dans cette période, entre autres, que se passe l'épisode de Daniel, que vous pouvez retrouver également dans la Bible. Et là, c'est l'éloignement, c'est la destruction, c'est comme un peuple en exil. Aucun repère. Les familles, pour certaines, sont dans le deuil parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Les familles sont séparées, sont loin de chez elles. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. La situation, aussi dramatique soit-elle, n'est pas irréversible. Et ce matin, je voudrais vous dire, quelle que soit peut-être votre vie de péché que vous avez pu avoir, quel que soit l'exil dans lequel vous êtes peut-être depuis des années, voire des dizaines d'années, la situation n'est pas irréversible. La situation n'est pas irréversible. Dieu va permettre que son peuple sorte d'exil. Il s'est passé 70 ans et le peuple est revenu à Jérusalem. Et là, il y a eu un processus de restauration qui s'est passé sur trois étapes que j'ai retenues ce matin. Et ce processus, on va le lire dans Esdras au chapitre 3, versets 1 à 3. Il nous est dit ceci, ça c'est la première étape. Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Ils étaient revenus. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir les holocaustes. Selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu, ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoi qu'ils eussent à craindre les peuples du pays. Et ils offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Première chose qu'ils ont fait quand ils sont revenus, ils rétablirent l'autel, pas n'importe quel endroit, ils le rétablirent sur ses fondements, là où il avait été construit initialement. Ils ne se sont pas contentés de rétablir l'autel. Ils sont passés à l'acte, ils y offrirent des holocaustes. Alors, les holocaustes dans l'Ancien Testament, l'autel, c'était un endroit où le peuple venait sacrifier des bêtes, des agneaux, des moutons, des bœufs, pour la purification des péchés. C'est la loi que Dieu avait donnée à Moïse, et l'holocauste était le symbole de la repentance. On venait chercher le pardon de Dieu au travers ces holocaustes. Et c'est une première chose qui a été faite quand le peuple est venu, ça a été cette repentance. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, la ville, vous pouvez lire Esdras et Néhémie, la ville était encore en chaos, le temple n'avait pas été reconstruit, et la première chose qu'ils ont rétablie, c'était l'holocauste, c'était la repentance. Et à ce moment-là, la reconstruction du temple n'a pas encore démarré, mais la purification des péchés du peuple et une condition pour pouvoir entamer ce travail de restauration. Et Jean-Luc parlait ce matin de la restauration que Dieu veut opérer dans les vies. Et je voudrais vous dire que ce matin, que si vous voulez que Dieu restaure votre vie, ne brûlez pas les étapes. Notre vie ruinée par le péché ne pourra pas être restaurée selon les plans de Dieu, selon les plans de l'architecte divin, si nous ne passons pas par cette étape de repentance. Mettons les choses dans l'ordre. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements. Et Paul disait là encore aux Corinthiens, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il est question là aussi de fondement. Et il n'est plus question pour nous d'aller offrir des sacrifices d'animaux. Non, nous n'avons pas de sacrifice à faire. Aucun. Aucune œuvre. Aucune action. Jésus-Christ lui-même s'est offert en sacrifice une fois pour toutes, pour nous pardonner de nos péchés. Il est venu sur terre, Dieu s'est fait homme au travers Jésus-Christ. Il a vécu sur terre sans commettre le péché, parce que c'était le plan de Dieu de descendre parmi nous et de s'offrir en victime. Il est la victime qui expie nos péchés. Alors, si ta vie est ruinée par le péché, ce matin, sache que en Jésus-Christ, par son sacrifice, tu peux venir repentant et il changera ta vie, il pardonnera tes péchés. Il rétablira l'autel sur ses fondements, quoi qu'ils eussent à craindre les peuples du pays. Eh oui, pendant 70 ans où vous êtes en exil, le territoire, les peuples ennemis sont installés. Hein. Vous savez, comme on dit, le vide, l'absence a horreur du vide, non, comment on dit, hein, c'est ça ? Aidez-moi un peu, là. Hein? Non ? La nature, merci Serge. La nature a horreur du vide. Et quand le peuple est parti en exil, eh ben, les peuples ennemis ont occupé le terrain. Et le peuple d'Israël n'a pas regardé à ça. Ils craignaient le peuple ennemi, mais ils ont rétabli l'autel sur ses fondements. Notre engagement à marcher avec le Seigneur ne laissera pas indifférents ceux qui sont ennemis de Dieu. Ça, c'est sûr. Il y aura de la moquerie. Peut-être certains nous tourneront le dos, nous abandonneront. Je dirais, est-ce là la véritable amitié ? La nouvelle vie que Dieu veut nous donner est tellement glorieuse. L'Éternel veut nous restaurer. Alors n'ayons pas peur des peuples qui peut-être sont là et nous mettent la pression. Non, n'ayons pas peur. Rétablissons l'autel sur ses fondements. La deuxième étape de la restauration, une fois que l'autel a été rétabli sur ses fondements, c'était la reconstruction du temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Alors là, l'architecte, ça y est, va pouvoir intervenir. La restauration va pouvoir commencer avec ces moments de joie, parfois aussi d'opposition, de découragement. Et là encore, si vous lisez dans Esdras, dans Néhémie, vous verrez que ça ne s'est pas fait comme ça en claquant des doigts. La restauration du temple, c'est fait à peu près sur 20 ans. Donc nous, on le lit sur quelques chapitres, ça s'est fait à peu près sur 20 ans. Mais c'est un travail parfois de longue haleine, parfois plus rapide. Mais le travail, quand on laisse Dieu prendre les choses en main, alors le travail est parfait. On va lire dans Esdras au chapitre 3, versets 10 à 13, et puis le début du chapitre 4. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Moi, j'ai été interpellé par ces sacrificateurs, ces lévites qui pleuraient à grand bruit parce qu'ils avaient vu la construction et la gloire de l'Éternel. Mais quand on regarde ce qui nous est dit tout à l'heure qu'on a lu dans Jérémie, ils étaient bien de ceux qui ont été avertis par Jérémie. Alors oui, ils pleurent certainement amèrement. Et je me suis dit que de souffrance pourrait être évitée si on prêtait attention aux avertissements de Dieu. Ils pleurent, oui, certainement. Ça n'est pas précisé, mais je pense qu'ils pleurent aussi certainement sur leur misère, les sacrificateurs. Ils avaient un service particulier pour Dieu. Les lévites également. Est-ce qu'ils n'ont pas été aussi en partie responsables de cet exil et de cette destruction ? Ils ont eu l'occasion de voir la gloire de l'Éternel dans le temple. Ils ont eu l'occasion d'être avertis par le prophète de l'Éternel quand le peuple et quand eux-mêmes s'éloignaient de Dieu. Mais leur cou était raide. Ils étaient insensibles. Et là, oui, ils pleurent à grand bruit. Je pense que c'est aussi les signes de la repentance dans leur cœur. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent « Nous bâtirons avec vous ». Car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esaradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel. Le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Les ennemis du peuple d'Israël, ils se réveillent avec leur tactique. Ils se proposent d'aider à rebâtir le temple. Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices. La ruse du malin, faire croire qu'on peut mélanger. Heureusement, il nous est précisé, les ennemis de Juda, peut-on avoir des ennemis qui servent le même Dieu que nous? Ça paraît quand même assez improbable. Et la décision de Zorobabel, de Josué, des chefs de famille, a été celle-ci de tenir ferme et de dire « Non, ce n'est pas à vous et à nous, pas de compromis. On ne transige pas, on ne travaille pas avec les ennemis de Dieu. Nous bâtirons, nous seuls. » Devant le refus du peuple de Dieu de coopérer avec l'ennemi, alors la tactique s'est intensifiée. Ils se sont dit, comme on n'arrive pas avec les chefs, avec les responsables, alors ils découragèrent le peuple, ils l'intimidèrent. Et quand on prend la décision de s'engager avec Dieu, de marcher avec lui, quand on laisse Dieu construire ce temple, cette demeure, cette nouvelle vie dans laquelle nous voulons marcher, alors oui, les anciennes compagnies peuvent se montrer tolérantes au début envers nous. Soit on nous tourne le dos, soit on se dit, ok, c'est bien, tu as rencontré Dieu, c'est ton truc, on le respecte, mais tu vas bien continuer quand même à nous fréquenter. Tu vas bien continuer à faire la fête avec nous. Et puis, on se dit peut-être pas ouvertement, mais c'est un truc passager, ça va lui passer. Ok, tu vis ta vie avec Dieu, mais en fait, tu vas continuer comme avant. Et l'absence de compromis, quand on transige à ce moment-là, inévitablement, ça va emmener certains qui, jusque-là, nous entouraient à essayer de nous décourager. Parce que quand le malin voit qu'il n'arrive pas à nous attirer, alors il change de tactique. Et ceux qui, jusque-là, étaient proches, ceux peut-être qui, avec qui on avait des relations, avec qui on vivait notre vie de péché, qui étaient ennemis de Dieu, à ce moment-là, ils vont tout faire pour nous décourager. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, il nous est dit ceci, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Alors ça doit vous rassurer. Si vos anciennes compagnies, ça peut être difficile de couper certains liens, parce qu'on se rend compte que ce sont des fréquentations qui nous tirent vers le mal, vers le péché. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus leur parler, qu'il ne faut plus prendre des nouvelles, ça veut dire que ma vie que je menais avant, quand je pratiquais le mal, quand je pratiquais le péché, quand je dérobais, quand je faisais la fête, quand je sortais avec ces gens-là, ma vie, elle est changée. Et moi, je peux vous dire une chose, rassurez-vous, au moins d'avoir fait ce choix, les hommes méchants avanceront toujours plus dans le mal. Ne croyez pas que s'ils continuent sans Dieu, leur vie va s'améliorer, parce qu'ils sont sur un chemin où ils s'égarent. Alors faisons entièrement confiance à Dieu, il reconstruira notre vie selon son plan parfait. C'est lui qui va être le maître d'œuvre de cette restauration du temple, du nouveau temple que nous allons reconstruire avec lui. Et puis il y a une troisième étape qui est, me semble-t-il, aussi importante, c'est la reconstruction de la muraille. L'autel a été rétabli sur ses fondements, le temple est reconstruit, et il manque encore quelque chose d'important à Jérusalem, c'est la construction de la muraille. Et là encore, ça ne va pas être de tout repos. Dans Néhémie, au chapitre 2, versets 17 à 20, on va lire ceci. C'est Néhémie qui parle et au verset 16, il nous est dit « Les magistrats de la ville ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, Je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. » Néhémie était sorti dans la ville et il était allé voir les dégâts de la muraille qui avait été complètement démolie, des portes qui avaient été brûlées. Et à partir du verset 17, il nous est dit ceci, c'est Néhémie pardon, qui parle. « Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent « Levons-nous et bâtissons ». Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Là encore, les ennuis vont commencer. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur Ammonite et Geshem, l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent « Que faites-vous là ? Vous révoltez-vous contre le roi ?» Et je leur fis cette réponse « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. » Et après, dans le chapitre 3 de Néhémie, si vous souhaitez lire, vous verrez cette fourmilière, la liste des familles qui s'est investie dans la reconstruction de la muraille. Les participants, chacun sur une section de la muraille, sur les portes, à reconstruire. Et la muraille nous parle bien évidemment de protection de la ville, la protection du temple qui était au cœur de la ville. Et ça représente l'église locale, la communauté des chrétiens, qui est là comme un rempart pour empêcher aussi l'ennemi de venir détruire les temples que nous sommes. Et dans 1 Thessaloniciens, Paul écrit ceci au chapitre 5, verset 11. « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit envers vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et je dirais, waouh, quelle belle muraille! Quelle belle muraille! Exhortez-vous, édifiez-vous, avertissez-vous, consolez ceux qui sont affligés, prenez garde les uns aux autres. Oui, en résumé, veillez les uns sur les autres, protégez, mettez une protection autour des temples qui ont été reconstruits, qui ont été restaurés, pour que l'ennemi n'ait plus de prise. Alors bien évidemment, c'est pas de l'ingérence dans la vie des autres. Il n'est pas question là, dans l'écrit que Paul fait aux Thessaloniciens, de dire « immiscez-vous dans la vie des autres pour savoir ce qu'ils font, où ils vont, ce qu'ils font ». Non, non. Il est question d'un aspect de protection spirituelle, de prendre garde que personne ne s'égare, que personne ne se perde. Et le rôle de la muraille est bien de protéger le territoire des attaques de l'ennemi. Sans muraille, il n'y a pas de protection. Le danger est permanent. Et il y a un risque avéré pour les croyants qui pensent pouvoir vivre leur foi en dehors de toute église, de toute communauté. Bien évidemment, la foi n'est pas une question d'appartenance à une communauté. Ce n'est pas parce qu'on vient dans une église évangélique ou chrétienne qu'on a une foi vivante. Non, ce n'est pas ça qui fait la foi. Mais l'église, la communauté, est là aussi pour nous protéger, pour nous entourer. Et quand délibérément on veut vivre en autonomie, alors on se prive de la muraille, on se prive et on s'expose. Mais la construction de la muraille n'est pas de tout repos. Non. Autant le temple, on l'a vu, il y a eu des moments de joie, de découragement. Et pour la construction de la muraille, c'est pareil. Et dans Néhémie au chapitre 2, verset 10, « Sambala et Tobija, ayant appris la reconstruction de la muraille, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. C'est quand même terrible d'avoir un déplaisir parce que quelqu'un cherche le bien des enfants d'Israël. N'est-ce pas là les plans du malin ? N'est-ce pas là les plans du malin ? Chapitre 4, verset 7. « Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. » La construction de la muraille ne laisse pas l'ennemi indifférent. Il sait qu'une fois que la muraille va être reconstruite, l'accès n'est plus le même. L'accès n'est plus le même. Et l'ennemi fera tout ce qu'il peut pour empêcher, voire détruire cette muraille. Bien évidemment, la solidité de la muraille, ce serait intéressant, ça pourrait faire l'objet presque d'une prédication à elle seule, mais je voudrais m'arrêter sur quelques points de cette muraille. La solidité réside dans plusieurs éléments. Il y a bien évidemment la qualité des pierres, et puis il y a l'assemblage des pierres. Si vous faites une muraille juste en superposant des pierres et sans qu'il y ait un liant entre elles, la muraille, elle ne va pas tenir très très longtemps. Et ça nous parle d'unité. Ça nous parle aussi du liant, du ciment qui doit nous unir, l'Esprit de Dieu qui doit unir les pierres pour les rendre plus solides. Une pierre seule, sa solidité est limitée. Mais quand on les assemble entre elles, quand on commence à construire cette muraille, à mettre du liant entre elles, alors là, ça prend tout son sens. Il faut accepter aussi que les pierres soient taillées pour un meilleur assemblage. Sans aller bien loin, quand on regarde les remparts de la ville de Saint-Malo, on constate que les pierres ont toute une forme assez similaire. Elles ont été taillées, elles n'ont pas été extraites directement du sol et puis jointes, parce que alors là, je peux vous assurer que ça aurait été compliqué. Donc il faut accepter de tailler les pierres. Il faut accepter, oui, cette unité qui va permettre un bon assemblage. Chapitre 4, toujours de Néhémie, verset 6. Néhémie dit « Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur et le peuple prit à cœur ce travail. » Je fais le lien avec, si vous lisez le chapitre en entier où les questions de l'ensemble des familles qui construisent la muraille, c'est assez intéressant de voir comment ils s'y sont pris. Parce qu'on aurait pu dire « Bon allez, on se met tous à un endroit, on construit la muraille jusqu'à sa hauteur et puis on fait au fur et à mesure jusqu'à boucler la ville. » Et en fait, ça ne s'est pas fait comme ça. Les familles se sont réparties autour de la ville, chacune sur un tronçon délimité, et au fur et à mesure, on montait des rangs de pierre et puis on remettait des portes. Là aussi, méditons sur les portes avec les gonds. Il est question des portes que les familles posaient au fur et à mesure. Et on arrivait à ce stade ici que Néhémie évoque où la muraille fut achevée, on avait fait tout le tour de la ville. Les portes étaient posées, il manquait juste de la hauteur. Mais ça y est, la muraille fait le tour de la ville. Elle a besoin d'autres pierres pour atteindre sa hauteur définitive. Et moi, ça m'a réjoui de voir que le peuple a pris à cœur ce travail. Ce n'était pas travailler la pierre pour ceux qui l'ont fait. Et les murailles, vous savez, ce n'était pas des petites briques de 20 cm. Hein. En général, les murailles, quand on voit les villes fortifiées, les murailles qui entourent les villes, c'est de la pierre, une personne seule, elle ne peut pas la soulever. Hein. Donc c'était du labeur, c'était du travail pénible. Mais le peuple a pris à cœur ce travail. Et ça me fait penser à la joie qu'ont les croyants d'ajouter des pierres à l'édifice, à la muraille. Des pierres vivantes, c'est la vocation des croyants. La muraille est achevée, elle fait le tour de la ville, mais il manque encore des pierres pour qu'elle arrive à sa hauteur. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui dans ta vie, dans la construction du temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? Alors peut-être certains parmi nous n'ont pas encore attaqué cette phase de restauration. Peut-être que ta vie de péché t'a mené en exil loin de Dieu. Et il est temps ce matin de quitter cette situation. Comme à l'époque où Jérémie avait averti le peuple d'Israël, ce matin le Seigneur en avertit plusieurs. Le temps de l'exil à Babylone, loin de Dieu, le temps de la souffrance, peut être terminé, définitivement terminé. Entends la voix de Dieu qui t'appelle. Jésus vient, viens à Jésus dans la repentance. Il pardonne à celui qui s'approche de lui. Oui, il a fallu rebâtir l'autel des sacrifices avant de reconstruire le temple. Si tu veux rebâtir quelque chose de nouveau avec Dieu, si tu veux repartir à zéro, recommencer, alors fais les choses dans le bon ordre. Confesse-lui d'abord ton péché. Accepte son pardon. Et alors l'architecte va pouvoir prendre les choses en main. Le maître d'œuvre va pouvoir suivre les travaux de cette restauration, cette nouvelle construction du temple de Dieu. Peut-être l'ennemi est venu dérober dans ta vie. Le malin est un voleur. Il t'a ôté ton trésor. Le temps de la restitution est venu. Et vous pourrez lire dans Esdras au chapitre 1er, le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de Dieu, de son Dieu, pardon. Les ustensiles nous parlent, et le trésor, parce qu'il y avait les ustensiles et il y avait les trésors de la maison de Dieu. Et ça nous parle de ce qui fait notre richesse, notre valeur, notre utilité. Les ustensiles avaient une utilité. Et ne laisse pas le malin te glisser à l'oreille que tu ne vaux rien. Peut-être qu'il a dérobé dans ta vie ce qui faisait ta richesse, ta valeur, ton utilité. Le temps de la restitution est arrivé. Et dans la restauration de ta vie, Dieu veut te rétablir dans ce qui fait ta valeur, ton utilité. Tu as du prix à tes yeux. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Peut-être tu es découragé parce que la restauration ne va pas aussi vite que tu voudrais. Alors je te dis, prends courage ce matin. 20 ans pour reconstruire le temple. Alors parfois, il y a des étapes qui vont vite. Et là encore, si vous relisez la reconstruction du temple, c'est un petit peu par paliers. Et dans la vie, quand nous marchons avec Dieu, quand Dieu restaure les choses, il y a parfois des paliers où on a l'impression que les choses n'avancent plus comme au début. Au début, c'est flagrant, c'est beau, c'est la joie. Et puis, à un moment, on se dit, j'ai l'impression que plus rien n'avance. Et puis, on a tendance à se décourager. Moi, ce matin, je veux te dire, prends courage. Ne laisse pas l'ennemi prendre part à ta reconstruction. Prends position. Là aussi, parfois, on peut être tenté de se dire, bah oui, mais ça ira plus vite si on est plus nombreux. Non. Zorobabel, Josué, les chefs de famille, on dit à l'ennemi, non, c'est à nous de reconstruire. Et si tu veux que Dieu reconstruise ta vie, laisse Dieu faire. Ne laisse pas l'ennemi venir se joindre et puis construire un petit peu. Non, laisse Dieu agir, c'est lui qui rétablira toute chose en son temps. Prends courage ce matin. Et puis, peut-être tu te sens faible, en danger. L'ennemi attaque ta vie en permanence. Alors moi, je te dis, de quel côté de la muraille es-tu? Es-tu à l'intérieur? Es-tu à l'extérieur? La muraille, l'Église est là pour te protéger. Elle n'est pas là pour te faire du mal, te détruire. Elle est là, la muraille, pour protéger de l'ennemi, du malin. Profite de la communion des frères et sœurs. Joins-toi aux réunions d'église, aux réunions de prière, à un groupe de maison. Ne reste pas isolé dans ta foi. Ne reste pas isolé dans ta foi. Ne te mets pas en danger en t'isolant. L'autonomie dans la vie spirituelle ne nous a jamais fait grandir. Ce qui nous fait grandir, c'est la communion avec les frères. C'est d'avoir un frère, une sœur qui va nous donner une parole d'encouragement. Alors oui, parfois, c'est un petit peu... Ben, il faut se frotter, hein, la muraille, il faut accepter qu'on taille les pierres. Mais quelle belle construction, quelle belle protection une fois que la muraille est achevée. Alors ce matin, quelle que soit ta situation, prends courage. Dieu est là, il veut t'aider. Nous allons prier ensemble. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le divin architecte. Tu nous as créés à ton image pour vivre en communion permanente avec toi, mais le péché est venu faire des ravages dans nos vies. Le péché est venu nous séparer de toi. Mais par la grâce, par ton amour immense, ineffable, tu as envoyé Jésus mourir sur la croix, nous racheter. Et tu nous proposes une vie nouvelle. Tu nous proposes de reconstruire les choses dans notre vie, comme à l'origine, comme tu l'avais voulu. Merci Seigneur pour ta parole qui nous encourage. Merci pour ta parole Seigneur qui nous montre que pour celui qui veut se confier à toi, alors il y a une espérance merveilleuse. Il y a une espérance merveilleuse. Tu rétablis toutes choses Seigneur. Tu donnes l'occasion, quel que soit l'exil que nous avons pu vivre, quel que soit le péché dans lequel nous avons pu tomber, il y a une merveilleuse espérance en toi. Tu nous réhabilites, tu nous restaures Seigneur. Oh, je bénis ton nom, Seigneur. Merci pour ce que tu fais ce matin, Seigneur. Merci pour la restauration que tu fais dans le cœur de mes frères et sœurs. Merci pour le pardon que tu veux accorder à mes amis qui sont là, qui ne t'ont peut-être pas encore rencontré, qui ne t'ont pas donné leur vie, mais à qui tu tends la main ce matin, Seigneur. Oh, qu'ils puissent, Seigneur, ce matin venir à toi, plier le genou dans la repentance, et que tu puisses faire cette magnifique œuvre de restauration dans les cœurs. Je te rends grâce, Seigneur. Que ton nom soit glorifié en toutes choses, Seigneur. Amen. Amen. Amen.